À toi, Samantha. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un plan précis pour votre vie, mais pas à partir seulement d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être un moment de vous adresser une parole du Seigneur et avoir un objectif dans votre vie. Et l'objectif du Seigneur, en Jean chapitre 15, c'est que nos vies portent du fruit. Et nos prières et notre désir, Shirley et Samantha, c'est que votre vie porte du fruit. C'est une façon, à un moment donné, d'aller devant le Seigneur, de faire un bilan de sa vie. Retenez cela, ce message de votre baptême, toute votre vie, parce que Dieu désire que vous portiez du fruit à sa gloire. Et il y a un verset qui dit, en chapitre 15, verset 8 de l'évangile de Jean, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Un disciple, c'est celui qui suit le Seigneur, mais qui ressemble à son maître et qui, quelque part, par sa vie, donne un témoignage puissant, avec ou sans parole, de ce que Jésus est parce qu'il habite en lui. Et la Bible dit que c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Une façon de dire merci au Seigneur, après le salut qu'il nous accorde gratuitement, c'est de donner à notre tour notre vie au Seigneur, celui qui est mort à la croix, celui qui a eu ses clous dans ses mains, dans ses pieds, pour mourir d'une mort atroce, une couronne d'épines, les blasphèmes, le mépris, le rejet qu'a subi notre Seigneur. Il a fait tout cela pour que dans sa mort, nous ayons la vie. C'est le principe de la vie. Il faut que le grain de blé, le grain tombe et meure, n'est-ce pas, pour porter que la semence germe, pour porter un fruit. Et cela se fait par la mort à soi-même. Le principe de Dieu, c'est que la mort engendre la vie. La mort de Jésus a engendré la vie lorsqu'on l'accepte. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Et il faut que la graine meure en terre sous l'effet de l'humidité, la chaleur, pour qu'il y ait la vie. Et c'est une graine qui a une puissance de vie extraordinaire. Et lorsque le chrétien meurt à lui-même, alors il peut porter du fruit qui glorifie Dieu le Père. C'est une façon de dire merci au Seigneur, que nos vies glorifient le Seigneur. Et je crois que c'est votre désir à toutes les deux, Shirley et Samantha, que votre vie glorifie le Seigneur. Shirley est un peu plus jeune, Samantha un peu plus âgée, mais chacune d'elles a toute une vie devant elle pour glorifier Dieu. Et Dieu s'attend à ce que vous portiez du fruit. Et j'aimerais lire, si vous me permettez, Jean 15, verset 1 à 17. Bon, on va essayer de raccourcir un petit peu le message ce matin. Mais Jésus a dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demandez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je pense qu'on pourrait passer toute la journée et plus pour juste approfondir le texte et parler de ce texte merveilleux. En fait, dans l'évangile de Jean, il y a une tension constante entre ce que dit Jésus et la réaction de ses auditeurs. Il a les auditeurs qui croient et qui croient de plus en plus, et il a les auditeurs qui ne croient pas et qui croient de moins en moins, qui endurcissent leur cœur et qui deviennent incrédules au point qu'ils vont vouloir que Jésus-Christ meure. Et l'évangile de Jean a pour but qu'on connaisse Jésus-Christ, qu'en lui on ait la vie éternelle. Donc si vous avez lu l'évangile de Jean et vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle, c'est que vous n'avez pas eu la foi dans ce que Jean présente comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Et le Seigneur vous invite à croire ce matin, à vous humilier si c'était le cas, pour accepter Jésus-Christ et avoir la vie éternelle, parce que c'est son désir. Il est mort à la croix pour vous donner la vie. C'est extraordinaire cela, ce don de la vie de Jésus à la croix, afin que nous ayons la vie gratuitement, même si lui a payé un grand prix, alors nous pouvons l'avoir gratuitement. Et Jésus a passé du temps avec ses disciples, il les a formés, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a fait toutes sortes de miracles dans l'évangile de Jean. Il y a 7 miracles répertoriés. Il y a aussi les « je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis l'alpha et l'oméga, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger ». Jésus-Christ a manifesté que, avant qu'Abraham fût, je suis qu'il est de toute éternité, et il s'est présenté afin que nous ayons la vie. Mais vous savez, il y a toujours le choix à faire, d'accepter ou de rejeter. Et maintenant, dans les dernières heures de sa vie, en route vers Gethsémané, il passe devant une vigne. Et là, il va enseigner les disciples. Et il leur dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. À partir de Jean chapitre 13, Jésus lave les pieds des disciples. Il prend le temps dans ses dernières heures d'enseigner ses disciples. Il n'enseigne plus la foule. Il enseigne ceux qui sont proches de lui pour les consoler, pour les avertir que le Saint-Esprit va venir, le Consolateur. Il est dans une intimité très proche avec ses disciples pour leur enseigner les dernières vérités qui vont les aider à s'appuyer sur le Seigneur et son enseignement pour ensuite être des apôtres, des disciples qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, il passe auprès d'une vigne en allant vers Gethsémané. C'est quelques heures avant qu'il soit arrêté et trahi et puis finalement crucifié. Il passe devant une vigne, vraisemblablement, et dit « Voilà, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Pourquoi il dit « Est-ce qu'il est le vrai cep ?» Parce qu'il y a un faux cep. Ce n'est pas tout Israël qui connaissait le Seigneur, peut-être un faible reste. Il y a ceux qui étaient dans le judaïsme et qui ne voulaient pas croire en Jésus comme le Messie. Et donc, ils ont un pied dans le judaïsme, un pied vers le Seigneur. Ils doivent faire un choix. Mais le choix, lorsqu'on accepte Jésus, se demande par le fait qu'on s'attache à sa parole. On reste attaché à sa parole. On demeure dans sa parole et on devient un vrai sarment. De même qu'il y a eu un vrai cep, il y a de vrais sarments. De même qu'il y a un faux cep, il y a des faux sarments. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. En fait, ceux qui croient dans le judaïsme doivent faire un pas vers le Seigneur Jésus, sinon ils vont rester dans le judaïsme et ne pas s'attacher à l'essentiel qui est la nouvelle alliance, qui est Jésus-Christ lui-même. Donc il dit, maintenant attachez-vous à moi, je suis le vrai cep. Et vous allez démontrer que vous êtes mes disciples si vous êtes attachés à moi, et mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments. Mais il y a des faux sarments. Judas vient de trahir Jésus. Et Jésus avertit que le sarment qui ne porte pas de fruits, ben on le retranche, on le jette au feu et il brûle. C'est la condamnation notamment que Judas va subir après qu'il ait trahi le Seigneur Jésus, qui démontre qu'il n'était pas un sarment qui restait attaché au Seigneur. Le véritable croyant reste attaché au Seigneur, demeure en Dieu, et même s'il trébuche parfois, il revient vers le Seigneur. C'est la preuve qu'il connaît le Seigneur. Alors, Shirley et Samantha, le Seigneur veut que vous portiez du fruit. Et dans ce texte ici, le mot « fruit » apparaît 9 fois, de même que le mot « père ». Jésus veut vous inviter dans votre vie à avoir la même intimité de vie que lui avait avec Dieu le Père. C'est incroyable cela. Quand on voit l'évangile de Jean, on voit que Jésus était toujours dépendant de Dieu le Père. Je ne fais pas ma volonté, je suis envoyé de Dieu le Père, etc. On voit une dépendance totale. Et maintenant, Jésus vous invite à entrer dans cette intimité avec lui et donc avec Dieu le Père. Mais il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. En fait, Samantha et Shirley, le Seigneur s'attend à ce que votre vie porte du fruit. Et on voit une progression même dans le passage ici, porte du fruit. Porte encore plus de fruits, porte beaucoup de fruits. Restez attachés au Seigneur, C'est la seule façon de porter du fruit. Alors, quel fruit ? Bien, tout d'abord, dire que dans les Proverbes, il est écrit « La racine des justes donne du fruit ». Dieu désire que nos vies portent du fruit. Et en psaume 1, il est écrit « Le croyant est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit ». Dieu nous donne tous les moyens pour porter du fruit. Donc quand le croyant ne porte pas de fruit, c'est qu'il est en panne. C'est qu'il oublie que le canal de la bénédiction, la sève qui doit couler du cep vers les sarments pour porter en fin de compte les grappes et le fruit que le vigneron attend, il est bouché par le péché, par les soucis de ce monde, les préoccupations. Mais la seule façon de porter du fruit, c'est de demeurer en Christ. Et la Bible abonde dans l'idée du fruit. Il y a toutes sortes de fruits. Bon, peut-être vous voulez avoir un petit peu le suivi des notes là. Alors, on va voir quel genre de fruits, comment porter du fruit. En fait, il y a toutes sortes de fruits. Voilà, tout d'abord, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoutez, quand on perd ce fruit, on est tellement malheureux. Un croyant qui n'est plus rempli du Saint-Esprit, qui n'a plus la joie du Seigneur, il est vraiment malheureux parce qu'il est fait maintenant dans sa nouvelle nature pour vivre avec la vie de l'Esprit-Saint et laisser Jésus-Christ vivre en lui. Et donc, comme a d'ailleurs partagé Samantha, lui obéir, c'est la clé, l'obéissance. Alors, je ne vais pas lire tous les versets parce que je pense que ce serait un peu trop long à l'instant, mais sachez que dans la Bible, il y a toutes sortes de fruits. Dans le texte aussi, on le verra dans un moment. Il y a le fruit de la repentance, produisez donc du fruit digne de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité, le fruit de la justice, de l'humilité, le fruit de l'humilité, de la crainte éternelle, c'est la richesse, la gloire et la vie, le fruit de la générosité, la libéralité, le fruit de confesser son nom, avec ses lèvres, le Seigneur Jésus, lorsqu'on est rempli du Seigneur, c'est naturel de parler du Seigneur. Toutes sortes de bonnes œuvres. Et puis le fruit de l'évangélisation, je crois qu'on trouve ici, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, je vous ai établi, c'est le fruit du résultat de celui qui annonce l'évangile. Tôt ou tard, quelqu'un qui prie pour que Dieu lui donne une âme, Dieu l'exauce. Si vous n'avez jamais gagné une âme au Seigneur Jésus-Christ, priez que Dieu vous donne une âme. C'est ainsi qu'une femme en Roumanie, âgée, qui allait mourir à la fin de sa vie, consciente que ses jours étaient finis, a prié « Seigneur, permets qu'au moins j'amène une personne à toi avant de mourir. » Et Dieu lui a envoyé un communiste athée roumain qui est devenu un pasteur, pasteur Von Braun, qui est resté 14 ans en prison à cause de sa foi. Pourquoi ? Parce que cette femme a eu la foi que Dieu allait lui donner une âme. Et lorsqu'il s'est présenté par des circonstances particulières de visite, il est tombé sur cette femme. La femme était tellement remplie du Seigneur, tellement convaincante, que lui, il a accepté le Seigneur. Et de athée, il a cru, de communiste, il s'est donné à l'évangile et il est resté en prison 14 ans à cause de sa foi. C'est ainsi qu'une femme, à l'école du dimanche, avait prié que Dieu lui donne des âmes. Et un jour, elle a eu la joie d'amener l'évangéliste, futur évangéliste, Moody, qui a mené des milliers de gens au Seigneur. Dieu exauce la prière. Et si nous demandons, nous recevons, mais nous devons avoir la foi. Ayez la foi, Samantha et Shirley, que Dieu veut vous utiliser pour arracher des âmes de la perdition et les aimer pour les gagner à lui par l'amour de Jésus. Et cela vient par une vie consacrée au Seigneur et la foi. La foi. Hudson Taylor a conquis la Chine parce qu'il a eu la foi, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais sa foi était dans un grand Dieu. Et la mesure de notre foi, c'est la mesure de notre compréhension de qui est Dieu et de notre confiance en lui. Alors il y a toutes sortes de fruits, et parfois il faut reconnaître que nous avons tendance à vouloir faire plus qu'être. Quel est l'effort du sarment pour porter du fruit ? Si vous remarquez, un sarment, dans l'illustration, ne fait rien. C'est le vigneron qui va s'occuper du sarment. Le croyant doit donc être attentif à ce que Dieu veut pour lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va décrire cela un peu plus tard. Ça veut dire que le Seigneur s'attend à ce qu'on soit plus dans l'être que le faire. Et parfois, reconnaissons que nous tombons dans toutes sortes d'activités, voire activisme, qui fait qu'on oublie que c'est le Seigneur qui doit couler, faire couler sa vie en nous pour que le fruit soit là et du fruit qui demeure, parce que ça vient de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. On ne peut rien fabriquer de la vie chrétienne par soi-même, si ce n'est laisser le Saint-Esprit vivre en nous. John MacArthur, un de mes commentateurs préférés de la Bible, a dit « La clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. » Et vous connaissez le mot de Spurgeon qui a dit « Seigneur du tout ou pas Seigneur du tout. Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. » En fait, dans nos Bibles, à la fin de la Bible, vous avez des cartes, et il y a une carte intéressante d'Israël avec la mer de Galilée au nord, la mer morte au sud. Je suis allé en Jordanie, on m'avait montré une photo un jour de quelqu'un qui se baignait dans la mer morte et qui lisait le journal. Je dis, mais comment fait-il pour tenir presque debout, lire le journal? Et effectivement, quand on va dans la mer morte, et j'y suis allé, j'ai fait l'expérience, on se tient droit comme ça, et ça marche sans s'enfoncer. À cause du taux de sel, le taux de salinité dans la mer morte est tellement élevé qu'on peut rester debout dans la mer morte. Alors, c'est un lieu de tourisme, mais il faut faire bien attention de ne pas s'asperger les yeux, parce qu'on peut se brûler les yeux, et dans ce cas-là, c'est dangereux. Tout ça pour dire que la mer morte, elle est morte, on l'appelle la mer morte. Et pourtant, au fond, il paraît qu'il y a jusqu'à 400 milliards, ça a été étudié par des scientifiques, 400 milliards de minéraux qui pourraient être exploités. Alors par contre, la mer de Galilée, elle est proche de l'Hermon, elle reçoit toute l'eau vive, n'est-ce pas, qui se jette dans la mer, et il y a même des pêches miraculeuses, on le sait, dans la mer de Galilée, il y a des pêcheurs en abondance, parce qu'il y a du fruit qui est là, des poissons qui peuvent être pris et évidemment vendus ou mangés. Et c'est une mer très riche, de laquelle coule le Jourdain, moins de 400 mètres en dessous du niveau de la mer, qui se jette dans la mer morte, mais la mer morte reçoit toujours, mais elle ne donne rien. Et la mer de Galilée, elle reçoit, mais elle donne tout ce qu'elle a, après elle déverse dans le Jourdain. Et je pense qu'il y a deux sortes de chrétiens qu'on peut illustrer par ces deux sortes de mers, mer de Galilée au nord, mer de morte au sud. Il y a les chrétiens qui veulent toujours se tenir pour le Seigneur et donner. Et il y a ceux qui sont là en train de toujours recevoir, et qui ont cessé de donner. La richesse que vous avez, le salut que vous avez proclamé tout à l'heure, il vous appartient en Christ. N'en faites pas une richesse enfouie, comme la mer morte, mais faites une richesse qui est partagée aux autres pour glorifier le Seigneur Jésus. Alors, comment porter du fruit? Vous savez, ce texte demande beaucoup, quelque part, de méditation, mais brièvement. Parce que pour moi, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ce message va vous aider. Et vous pouvez peut-être le réécouter, Dieu voulant, sur le site. L'idée ici, c'est que, tout d'abord, Jésus a dit « Mon Père est le vigneron ». La vigne appartient au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, la vigne. Nos vies appartiennent maintenant à Dieu le Père. Il fait ce qu'il veut. Comment cultive-t-il la vigne? Il prend des sécateurs, il purifie le cep de tout rameau qui est stérile et il le retranche parce qu'il ne porte pas de fruits. Et le sarment ou la branche qui porte du fruit, il l'émonde, il coupe les rejetons, les jets inutiles, afin que la sève se concentre sur la grappe. Le viticulteur ou l'agriculteur ou le vigneron, ce qu'il veut, c'est avoir du beau fruit. Et pour cela, il faut que la sève coule abondamment depuis le cep jusqu'à la grappe. Le sarment, c'est le canal par lequel passe cette sève. Donc il faut concentrer la sève sur ce sarment pour que le fruit soit le plus beau possible et que le fruit soit là. Ça, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il purifie les mondes, ce qui est pas, ce qui est cher, ce qui est pensée humaine, ce qui est mondain dans notre vie, pour que le Seigneur, lui, soit glorifié, pour que la sève coule. Il veut, quelque part, faire mourir à nous ce qui est terrestre et charnel, nous dit la Bible. Ça veut dire notre propre volonté, nos désirs, nos passions, nos propres efforts à mener la vie chrétienne par nous-mêmes, notre propre justice. Et c'est vrai qu'on est sauvé, mais on a toujours besoin de se rappeler que là même où on a été sauvé au pied de la croix, pour être purifié, lavé, pardonné, c'est là même où on va chaque jour purifier son âme et demander au Seigneur de pardonner nos fautes, nos pensées, nos actions, nos paroles, parce que Dieu veut nous purifier pour que la sève coule, parce que Dieu est glorifié lorsque le fruit est là. Et nous glorifions le Seigneur par le fruit qu'il porte au travers de nous. Voyez-vous, c'est Dieu qui est monde, qui s'occupe de chaque croyant. Dieu, si vous êtes donné au Seigneur, il s'occupe de vous, il vous aime, et chaque jour, il va chercher à vous émonder pour que le fruit abonde, pour glorifier Dieu le Père. C'est tellement beau cela, n'est-ce pas? Et ça vient des Écritures, bien sûr. Alors, la vigne, c'est nous. Pourquoi il y a une fausse vigne? Ben, vous savez, dans l'Ancien Testament, Israël est appelé vigne, figuier, olivier. C'est le symbole qui illustre Israël. Il y avait une relation extraordinaire de... On n'a pas le temps de décrire tout cela, mais de Dieu qui a appelé un peuple, une vocation spéciale, particulière sur les Écritures, peuple d'Israël, peuple juif. Et ils ont abandonné le Seigneur. Ils ne sont plus quelque part de la maison d'Israël. Pourtant, la Bible dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, parce qu'ils ont abandonné Dieu ou ils n'ont pas cru en Jésus pour entrer dans la nouvelle alliance. Et ainsi, la vigne est l'Église aujourd'hui. Mais de même qu'il y a un vrai cep, un faux cep, il y a une vraie Église et une fausse Église. Je le dis dans mon vocabulaire, si vous voulez, il y a la chrétienté qui regroupe tous les chrétiens de nom. Et puis il y a le christianisme véritable où chaque croyant connaît Jésus-Christ, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, sert le Seigneur. Mais dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils disent « je suis avec Christ, je suis pour Christ, je suis en faveur de Christ ». Mais ils ne sont pas en Christ. C'est ça qui fait la différence entre la chrétienté et le christianisme. Ceux qui connaissent vraiment le Seigneur ne sont pas avec Christ, bien sûr. On est pour Christ, avec, mais ils sont en Christ, parce que Christ est en eux, l'espérance de la gloire. C'est toute une différence de faire partie de la vraie Église ou d'être un chrétien de nom, si vous voulez. Jésus a dit « Je suis le vrai cep ». Et il fallait que les gens s'attachent à lui, que le Fils de Dieu soit reconnu comme étant l'objet de l'amour de Dieu le Père, comme étant le Sauveur. Et donc les gens devaient s'attacher à son enseignement. Chaque fois que Jésus enseignait, il y a ceux qui croyaient et ceux qui se rebellaient, ceux qui s'opposaient et même qui voulaient chercher à le faire mourir. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu le Père » et Jésus est resté toujours dépendant de Dieu le Père. À combien plus forte raison devons-nous rester attachés à Dieu le Père nous-mêmes et combien nous en avons besoin? Il y a une relation de vigneron-cep qui est extraordinaire, c'est ce que je viens d'exprimer dans l'idée que le cep, n'est-ce pas, accepte quelque part l'émondage du vigneron. Jésus, durant toute sa vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il est Dieu fait homme et il a marché sur cette terre en laissant des traces extraordinaires d'amour, de bonté, de puissance, de miracles. Il nous demande d'entrer dans ces traces, de même de marcher par la foi. Mais Jésus a porté ce fruit parce que constamment il était soumis à Dieu le Père. Avant de choisir les disciples, les apôtres, il a prié, il a passé des nuits en prière. Tout ce qu'il a fait était de faire la volonté de Dieu le Père. À combien plus forte raison devons-nous dépendre de Dieu le Père et chercher sa volonté et le laisser agir au travers de nous? On peut s'exciter beaucoup dans la vie chrétienne et porter aucun fruit. Mais si on est au pied du Seigneur et si on se laisse purifier, quelqu'un qui est purifié, tôt ou tard, porte du fruit, il n'y a pas de stérilité possible dans la vie chrétienne, à moins du péché parfois qui est dans nos cœurs. La Bible dit, vous êtes les sarments. Dans le sarment, mais qu'est-ce qu'il fait? Le sarment, il est attaché au cep, mais on voit qu'il y a des sarments qui portent du fruit, il y en a qui ne portent pas de fruit. Il y a ceux qui sont de vrais disciples et ceux qui ne sont pas de vrais disciples. Judas a trahi le Seigneur, mais son sarment a été coupé. Pourtant, il se disait de Christ, mais il n'a pas... Même quand Jésus a lavé les pieds des disciples, Judas était là. Et Judas, et le Seigneur a montré le même amour qu'il a montré à tous les disciples envers Judas. C'était la dernière chance de Judas de se repentir par rapport au dessein de trahison qu'il avait conçu par amour de l'argent. Même Jésus, il a vu Judas dans les yeux face à face et il lui pardonnait en l'invitant à se repentir. C'est incroyable l'amour du Seigneur jusqu'où il est allé. La Bible dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et c'est notre sève et gloire à Dieu que nous avons ce consolateur. Quand Jésus disait qu'il allait partir, les disciples étaient paniqués, mais nous ne te verrons plus, qui va nous diriger, qui va nous guider, qui va nous enseigner? Emmanuel, Dieu avec nous, c'est extraordinaire. Vous n'avez jamais pensé que vous auriez pu vivre là du temps de Jésus, voir Jésus prêcher, enseigner, faire des miracles. Ça, c'était extraordinaire. Mais Jésus parle d'un autre consolateur, l'Esprit Saint, et gloire à Dieu qui donne l'Esprit Saint à ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. C'est ça la clé. Peut-être si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous dites, mais tout ce que vous dites là, est-ce que c'est possible de le vivre? Non, c'est impossible de le vivre sans avoir reçu le Seigneur et la présence du Saint-Esprit qui nous scelle et qui nous donne une nouveauté de vie, une vie nouvelle pour vivre. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont devenues nouvelles. C'est merveilleux de connaître le Seigneur Jésus et d'être transformé et de vivre la vie avec un grand V. Dans la relation du CEP, ah, j'ai oublié, excusez de vous donner tout ça. Dans la relation du CEP avec les sarments, on voit qu'on dépend évidemment du Seigneur. Et pour terminer, si nous regardons ensemble ce passage, qui demanderait plus de temps, certes, hein, mais on voit qu'il y a plusieurs fois aussi le mot « demeurer ». Donc notre responsabilité, et Shirley et Samantha, votre vie doit d'abord consister à demeurer en Christ. Avant toute chose, Dieu vous appelle à demeurer en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 3, se laisser purifier par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. On peut prier, c'est vrai, mais c'est la parole qui nous sanctifie, qui nous transforme. Ensuite, c'est de dépendre totalement de lui. Verset 5, c'est demeurer dans sa parole et aussi demeurer dans son amour. Voyez combien il s'aime. C'est à ce signe que vous le reconnaîtrez. Voyez comme il s'aime. Lorsque le croyant n'a plus l'amour de Christ dans son cœur, envers les enfants de Dieu, les membres de l'Église, envers le monde perdu, envers Dieu lui-même, il y a un problème là. C'est que le vrai disciple, il est habité de l'amour de Christ. C'est une joie, une paix, un amour qui déborde et qui ne peut pas retenir. C'est comme les chutes du Niagara. Parce que la puissance de Christ est telle qu'il est capable d'aimer même jusqu'à ses ennemis. On raconte justement ce pasteur Von Brandt qui a raconté l'histoire d'une famille, d'un père de famille et d'une mère de famille à cause de leur foi, qui était dans le milieu communiste, bon ça remonte à quelques années, mais qui ont été emprisonnés. Et leur fille avait appris qu'il fallait aimer les ennemis. Elle apportait tous les jours des bouquets au geôlier qui avait enfermé ses parents. Et dit, Dieu m'a appris à vous aimer. Vous avez enfermé mes parents, mais je vous aime. Le geôlier a été tellement bouleversé qu'il est devenu chrétien. Il a été lui-même après enfermé en prison à cause de sa foi. C'est la puissance de l'amour. Garder ses commandements, ce n'est pas simplement du sentimentalo-mystico-émotion. C'est le fait de garder ses commandements. Seigneur, je veux t'obéir. Ta parole me dit telle et telle chose. Seigneur, je suis prompt à t'obéir. Écoute, Seigneur, ton serviteur. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et s'aimer les uns les autres. Alors, est-ce que je demeure en Christ? Alors, on est tous dans un piège parfois où on est tellement occupé, préoccupé, que demeurer en Christ pourrait devenir secondaire. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et reconnaissons que nous avons souvent besoin de nous humilier devant Dieu pour retourner vers le Seigneur, comprendre que la plus belle part, comme Marie avait choisi, c'est d'être avec l'intimité avec Christ. Pas de s'agiter à droite à gauche, mais d'être dans l'intimité avec Christ. Bien, j'aimerais vous dire, pour terminer, qu'il y a ici des résultats extraordinaires qui sont mentionnés comme fruits dans le résultat de demeurer en Christ. Alors, brièvement, et je crois qu'on a tous envie de goûter cela, premièrement, la Bible dit que nos prières sont exaucées. Verset 7, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Moi, je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné de penser que les chrétiens pourraient se passer de prier ou même de se réunir pour prier. Mais quand on ne prie pas, c'est qu'on ne croit pas à la prière. On ne croit pas vraiment au résultat de la prière. Mais quand nos prières sont exaucées, on a envie encore plus de prier, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de voir Dieu exaucer nos prières. On n'est rien, on se tient devant Dieu, Seigneur, aie pitié, et on prie, et Dieu est en train d'exaucer par amour pour nous. C'est demeurer en Dieu qui permet cela. Par la foi, on va déplacer des montagnes, mais il faut demander. Demandez, vous recevrez. Et Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais si notre cœur est pur, la Bible dit que quoi que ce soit que nous demandons, Dieu, si c'est selon sa volonté, il nous l'accorde. Mais c'est un verset qui bouleverse cela. Mais il y a très peu de croyants qui veulent le vivre. Et pourtant, c'est juste le fruit de l'Esprit dans la vie du croyant, le Saint-Esprit qui inspire la prière, que Dieu exauce. Amen. Alors, priez. Le deuxième résultat, c'est de voir la gloire de Dieu le Père. Tous les hommes de Dieu, tout ce que Dieu accomplit au travers, il y a toute une liste de missionnaires, de gens extraordinaires, les frères et sœurs persécutés aujourd'hui, ils donnent gloire à Dieu par leur vie, parce que c'est Dieu qui vit en eux. Il n'y a jamais la place pour la gloire de l'homme. Le jour où il y a la gloire de l'homme, c'est entacher la gloire de Dieu. Il n'y a plus de gloire de Dieu. Dieu veut tout. Mon fils, donne-moi ton cœur. disait Dieu à Salomon. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et ainsi, glorifier Dieu le Père, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous l'aimons. Et un Père aussi tendre, aussi merveilleux, on a envie qu'il soit glorifié, honoré, comme des enfants qui ont des pères, n'est-ce pas, qui ont eu un Père merveilleux qui les a aimés. Mais notre Père nous a aimés de toute éternité et en nous sauvant, on veut le glorifier maintenant. Non pas toutefois ce que je veux, comme a dit Jésus à Gethsémani, mais ce que tu veux. Et puis il y a aussi le fruit de la joie parfaite, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » L'idée de parfait ici, c'est d'être complet, une joie qui ne dépend pas des circonstances, des biens matériels ou des épreuves de la vie. Bon, c'est facile à dire, j'ai vécu ça il y a quelques mois, mais quelque part, la joie du Seigneur, dit la Bible, sera votre force. La joie du Seigneur, c'est merveilleux. C'est dommage que parfois, nous croyants, on a perdu la joie, cette joie que Dieu veut manifester, qui fait que quand on rencontre, quand on est un converti, un vrai chrétien qui est rempli de joie, mais il a quelque chose que je n'ai pas, qu'est-ce qu'il a, d'où vient sa joie? Ah ben, nous on sait quand on est chrétien d'où vient la joie, c'est la joie du Seigneur, et c'est une joie tellement profonde qui n'a pas besoin d'être comblée par mille et une choses de la vie, juste la présence du Seigneur Jésus. Cultiver cette présence, la Bible dit un jour dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs. C'est tellement merveilleux d'être en communion avec le Seigneur Jésus. Et puis il y a un autre fruit extraordinaire, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui souffrent de solitude, qui ont tellement envie d'avoir des amis qui feraient n'importe quoi pour acheter presque l'amitié de quelqu'un. Ce qui est extraordinaire, si vous, je ne sais pas, si vous avez... un mal de solitude ou de manque d'identification avec un groupe, ou manque d'amitié dans votre vie, d'amour tout simplement, Jésus veut entrer dans votre vie, dans une relation intime avec lui. Attendez, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est vrai qu'il s'est montré comme un agneau, hein, mais c'est le Fils de Dieu qui revient dans toute la gloire juger le monde. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu. Et Dieu me dit maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait très peu de gens qui étaient appelés amis de Dieu. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tous les croyants peuvent être appelés amis de Jésus-Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que vous commandez. Voilà la condition, l'obéissance. Mais on peut entrer dans l'intimité de l'amitié de Jésus. Hey, si on a Jésus pour ami, alors qui peut nous combattre? C'est merveilleux d'avoir Jésus pour ami. Amen. Ah, au fait, vous avez le droit de dire amen de temps en temps quand même. Hein. Amen, merci. Allez, deux autres et je termine. Connaître Dieu par Jésus-Christ, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est incroyable. Jésus veut nous amener dans la connaissance de Dieu. Le plus grand problème de ce monde aujourd'hui, c'est de ne pas connaître Dieu. Le plus grand problème du croyant né de nouveau, c'est s'il ne prend pas assez de temps de connaître Dieu, sa vie spirituelle va s'assécher. Dieu est un océan infini. On peut se plonger dans le cœur de Dieu et nager toute sa vie et être satisfait, être rafraîchi, connaître Dieu. C'est beau de connaître Dieu. Et c'est possible au travers de Jésus-Christ. Et finalement, ici au verset 16, un des résultats de demeurer en Christ, c'est le zèle, l'évangile, le salut des âmes. Je vais citer un de mes missionnaires préférés, Charles Studd. Il a dit ceci, « Certains ne voudraient habiter qu'à l'ombre d'un clocher. » Pour moi, je vous rirais volontiers une auberge pour escaper aux portes de l'enfer. Il avait un tel zèle pour le salut des âmes qu'il disait, voilà, moi je vais me tenir là où je peux gagner des âmes. Ce n'est pas la peine de devenir un bigot d'église. En quelque sorte, c'est dans ces mots qu'il disait, habiter à l'ombre d'un clocher, ce que je veux, c'est aller là où les âmes peuvent être gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était sa passion. Et il est parti en Inde, il est parti en Chine, il est parti en Afrique. Et il a vu des centaines et des gens se convertir au Seigneur. Parce qu'il avait cette passion, le salut des âmes, faire connaître Jésus-Christ. Alors, Samantha et Shirley, puissiez-vous prier cette sainte prière, Seigneur, puisse ma vie porter du fruit à ta gloire. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez du fruit. Et attachez-vous au Seigneur, n'ayez pas honte de lui, toujours attachez-vous au Seigneur Jésus et vous allez prendre de plus en plus de l'assurance et vous serez étonné du fruit qui va vous dépasser, parce que c'est le fruit de Dieu, c'est surnaturel, c'est pas ce qu'on fabrique nous-mêmes, ça c'est la volonté d'homme. Mais le fruit que le Seigneur Jésus veut porter dans votre vie, c'est extraordinaire et c'est éternel et ça demeure dans l'éternité. Portez du fruit, portons du fruit, prions s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de nous rappeler dans ta parole ces éléments de qu'on est des simples sarments, qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Et on s'humilie devant toi, Seigneur, que tu sois glorifié. À toi la gloire, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, eh bien qu'il se manifeste, qu'il dise « Oui, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je veux être sauvé. » Dites cette prière, « Seigneur Jésus, entre en moi, donne-moi la vie éternelle. Pardonne mes péchés. » Faites cette prière dans votre cœur. Peut-être y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit « Priez pour moi, j'ai fait cette prière, je voudrais connaître le Seigneur. » Ou quelqu'un qui dit « Je suis dans l'épreuve, je désire avoir la foi. » Je vous invite dans votre cœur à demander au Seigneur qu'il vienne à votre aide et de le manifester tôt ou tard envers un ami croyant pour partager avec lui votre décision. Au nom de Jésus, Amen.